Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Deuxième acte du quinquennat, Édouard Philippe promet un changement de méthode. Les Français seront plus associés à la fabrique des décisions. Analyse de son discours avec Rosalie Lafarge dans un instant. Accélération écologique, réforme de l'assurance chômage, PMA pour toutes. Le Premier ministre a abordé de nombreux sujets. Nous ferons le point avec Anne Lorchouin sur les baisses d'impôts annoncées. La chef de l'exécutif de Hong Kong dénonce des émeutes organisées. Des dizaines de milliers de manifestants ont à nouveau défilé contre le projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Le Premier ministre japonais tente une médiation entre l'Iran et les États-Unis. Shinzo Abe rencontre à Téhéran le président Rouhani. Édouard Philippe a lancé cet après-midi à l'Assemblée l'acte 2 du quinquennat Macron. Le chef du gouvernement a prononcé sa deuxième déclaration de politique générale. Il promet un changement de méthode et de ton avec plus de concertation, mais la volonté de réforme reste entière. Le Premier ministre a dressé une longue liste de dossiers qu'il veut faire avancer et, tirant les leçons de la percée des écologistes européennes, Édouard Philippe promet une année d'accélération écologique, Rosalie Lafarge.
Oui, le Premier ministre le reconnaît, il n'est pas un écolo de la première heure, mais il s'est converti. Et résultat, au moins dans les mots, l'écologie est clairement mise en avant.
Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes.
Les actes. D'abord, la fin des objets en plastique jetables dans l'administration dès l'année prochaine et puis l'accélération du rythme des réformes en la matière. Une loi anti-gaspillage est par exemple promise pour septembre. Mais au cœur de ce que le gouvernement appelle l'acte 2, il y a aussi, toujours, l'économie. Nous avons reçu 5 sur 5 le message d'exaspération fiscale des Français, assure Édouard Philippe. L'impôt sur le revenu baissera de 350 euros en moyenne par foyer pour la première tranche. Les retraites au programme aussi, avec ce qui était annoncé, les mêmes règles pour tous et donc la fin des régimes spéciaux. Et toujours cette ambiguïté autour de l'âge de départ.
Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité.
Des applaudissements de la majorité qui se feront plus francs au moment de l'annonce attendue par l'aile gauche sur la PMA, la procréation médicalement assistée, mise au programme du Parlement fin septembre. Promis aussi un débat annuel au Parlement sur l'asile et l'immigration et toute une série de mesures pour les familles monoparentales. En revanche, pour la réforme des institutions, il faudra encore patienter. Édouard Philippe ouvre la porte à un report après les sénatoriales. Et le Premier ministre d'insister, vous l'avez dit enfin, sur un dernier point, le nécessaire changement de ton et de façon de faire du politique.
Le sentiment d'urgence nous a parfois conduit à prendre des décisions rapides, pas assez concertées. Nous sommes et nous demeurerons des réformateurs. Mais nous devons davantage associer les Français à la fabrique de nos décisions.
Et ce n'est pas avec trois mesurettes et des sourires qu'on y arrivera, critique déjà le Rassemblement national. L'opposition dénonce un recyclage de mesures déjà annoncées et rien de concret sur la façon de les financer. Mais Édouard Philippe l'assure, dans l'hémicycle, rien de latin. Il est, selon sa propre expression, emprunté à un certain François Fillon, inénervable.
Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée nationale. Sur le quinquennat, annonce Édouard Philippe, les impôts des ménages baisseront au total de 27 milliards d'euros. Dans le projet de loi de finances 2020, des baisses seront votées à hauteur de 5 milliards. C'est massif, c'est clair, c'est net, dit le Premier ministre. On détaille cette annonce avec vous, Anne Lorchouin.
Oui, alors d'abord, qui sera touché par ces baisses d'impôts et dans quel volume? Édouard Philippe a été assez précis. Le taux d'imposition de la première tranche d'impôt sur le revenu, soit 12 millions de foyers, sera abaissé de 3 points. Gain moyen estimé par foyer 350 euros, on l'a dit, soit, selon le Premier ministre, un tiers d'impôt en moins pour ces catégories de revenus. Techniquement, cela signifie que les ménages qui gagnent entre 9 et 27 000 euros par an se verront imposés à 11% au lieu de 14%. La tranche au-dessus, ceux qui gagnent entre 27 et 72 000 euros par an, économiseront eux en moyenne 180 euros. Autant de recettes en moins pour l'État qu'il faudra évidemment compenser. C'est la contrepartie, principe cher à Édouard Philippe, comme il l'a lui-même souligné. Une contrepartie dont il s'est bien gardé de détailler les chiffres. Là, ce sera à Bercy de le faire, début juillet. Édouard Philippe a tout de même indiqué quelques pistes. Cela fait déjà quelques temps, en effet, que le gouvernement réfléchit à raboter les aides publiques aux entreprises, des aides qui ont sérieusement amputé le budget de l'État ces dernières années. Si le CICE est maintenu et pérennisé sous forme de baisse de cotisation, les autres aides publiques République qui prennent la forme de niches fiscales notamment sont dans le viseur. Le Premier ministre en a cité trois, celles concentrées sur les très grandes entreprises, sans plus de détails, mais on pense à l'aide au mécénat d'entreprises dont le gouvernement ne cache pas vouloir se désengager. Les niches anti-écologiques, et là c'est l'exonération de taxes sur le gazole routier qui est spécifiquement ciblée. Enfin, les niches qui réduisent les droits sociaux des salariés. Édouard Philippe a mentionné notamment la déduction forfaitaire spécifique, c'est-à-dire l'abattement fiscal pour frais professionnels qui concerne plusieurs catégories de salariés et qui pourrait donc être supprimé.
Anne-Laure Chouin, et on attend le vote de confiance de l'Assemblée après 19h. Renault, dont le projet de fusion avec Fiat a échoué la semaine dernière, donne toujours la priorité au renforcement de son alliance avec Nissan. La priorité est d'aller vers une alliance vivante, efficace, renforcée, affirme Jean-Dominique Senard. Le président de Renault s'est montré confiant lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Renault. Steven Goyer, vous êtes sur place. La démission de Jean-Dominique Senard avait été évoquée. Est-ce qu'il vous semble toujours fragile ce soir?
Eh bien, il est peut-être un petit peu moins affaibli que prévu, Jean-Dominique Senard, puisque c'est un vrai baptême du feu, justement, qui attendait il y a 3 heures le nouveau président du groupe Renault, avec des questions à haut risque, notamment sur l'échec pour l'instant du rapprochement avec Fiat et les tensions de plus en plus vives avec le groupe Nissan. Pour preuve, cette question posée il y a quelques minutes par l'un des actionnaires, comment l'État, avec 15% du capital de Renault, peut-il faire capoter l'opération avec Fiat Chrysler, alors qu'avec 45% du capital de Nissan, vous ramer. Et cette petite musique d'un État premier mis en cause dans l'échec Fiat, où on l'a plusieurs fois entendu dans les rangs aujourd'hui à la tribune, Jean-Dominique Senard a expliqué que cette situation le désolait, mais qu'il conservait toujours l'idée dans un coin de sa tête. Le président du conseil d'administration s'est également voulu rassurant sur le dossier Nissan, en minimisant les tensions des derniers jours et en appelant à un renforcement de cette alliance. Il n'y aura pas de réussite de Renault sans réussite de l'alliance, a-t-il déclaré, avant d'expliquer que ces débats bas, même franc et direct, allait se poursuivre dans l'attente aussi de nouveaux signes de Nissan.
Les dépenses de santé remboursées par l'assurance maladie ont augmenté de 17 milliards d'euros sur 5 ans. Elles représentent 140 milliards en 2017. La Caisse d'assurance maladie publie son étude sur les dépenses de santé, une cartographie médicalisée qui permet de cerner l'évolution des soins de près de 58 millions de bénéficiaires du régime général. L'objectif étant d'identifier les pathologies, les maladies qui ont entraîné l'augmentation des dépenses et d'expliquer pourquoi, Claire Flochel.
45% des Français ont recours à des soins de santé en 2017, dont 35% pour la prise en charge d'une pathologie spécifique, la plupart du temps pour une maladie chronique comme le diabète, l'insuffisance rénale ou les maladies respiratoires. C'est l'un des principaux enseignements de cette cartographie, l'augmentation constante depuis 5 ans des pathologies dites chroniques. Les patients vivent plus longtemps et ont donc des traitements qui génèrent des dépenses importantes au fil du temps. C'est la même chose pour l'un des plus importants postes de dépenses, les hospitalisations ponctuelles, 21 milliards d'euros en 2017. Une part importante est dédiée à la santé vieille. Vieillissante des Français, coloscopie, pose de prothèse ou opération de la cataracte. Mais le vieillissement de la population n'explique pas à lui seul l'augmentation des dépenses selon Aydan Tajamadi de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le vieillissement de la population explique une partie de l'augmentation des pathologies, mais toutes les maladies ne sont pas chez des personnes plus âgées, et donc on a une augmentation de certaines pathologies chez des personnes plus jeunes. En ce qui concerne l'augmentation du coût, on a un certain nombre de phénomènes, mais en particulier on a le prix du médicament, qui pour des pathologies comme le cancer ou d'autres maladies avec des nouveaux médicaments qui sont particulièrement onéreux, qui explique une partie de l'augmentation des dépenses.
L'assurance maladie pointe en effet la prise en charge de plus en plus coûteuse des cancers, plus 3,2 milliards d'euros en 5 ans, d'abord parce que le nombre de personnes atteintes augmente constamment. Ensuite, parce que les traitements deviennent de plus en plus chers. Par exemple, le cancer du poumon en forte augmentation chez les femmes ces dernières années, notamment à cause de la hausse du tabagisme. Eh bien, le coût du traitement s'élève aujourd'hui en moyenne à 20 000 euros par personne et par an en raison de l'arrivée de nouveaux traitements tels que l'immunothérapie.
Prenez une heure pour sauver 3 vies, appel lancé par l'établissement français du sang à l'approche du 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang. Les réserves sont actuellement basses et il est indispensable de relancer les collectes avant la période des départs en vacances, synonyme de baisse de fréquentation. Trash légal, vous vous êtes rendu dans un site de collecte dans le 9e arrondissement de Paris.
Don du sang Trinité, bonjour.
Ici, les coups de fil se succèdent et plus d'une cinquantaine de personnes poussent la porte chaque jour.
Bonjour, on voudrait faire un don du sang.
Est-ce que vous avez un petit peu de temps? Parce qu'on a un petit peu d'attente là cet après-midi. Je dirais à peu près 30 minutes d'attente.
Anne et son frère acceptent de patienter.
Moi j'en ai fait pas mal et j'embarque les jeunes.
Moi c'est la première fois.
Alexandre n'a pas perdu de temps.
J'ai 18 ans. j'en profite, parce que c'est aussi important comme geste.
Malgré l'engouement de ces jeunes, le docteur Michel Fourniol, responsable du site de Trinité, demeure vigilant.
Il nous manquerait à peu près 35 000 poches au niveau national, ce qui est considérable pour qu'on ait 10 à 12 jours d'avance pour pouvoir donner notre sang. Donc là, on est à 8 et demi jours. Et s'il y a un besoin important, on n'est pas sûr de toujours pouvoir faire face. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de tout le monde.
D'où l'appel lancé par l'établissement français du sang en cette période de pont où les donneurs sont moins nombreux.
Tout va bien, mais il y a des sangs qui sont plus difficiles à avoir. Et donc c'est surtout sur ces sang rare, entre guillemets, qu'on peut avoir des difficultés. C'est par exemple le groupe en O-, puisque en fait, si on ne connaît pas le groupe de la personne, on va lui donner des globules rouges en O-. Les accidents de la route, typiquement. Les urgences chirurgicales, typiquement, ce sera un O- si on n'a pas un groupe à définir.
Or, ces donneurs universels de groupe O- constituent seulement 6% de la population. En attendant, le docteur Fournier nous conduit vers une douzaine de fauteuils installés derrière l'accueil. Octave arbore le t-shirt de son super-héros. Il donne ses plaquettes, ce qui prend une heure et demie, et il a commencé très jeune.
Depuis 18 ans, le lendemain de mon anniversaire.
C'est vrai ?
Ouais. Depuis que j'ai l'âge de le faire, là j'ai mon t-shirt Superman, mais j'ai pas de super-pouvoir, donc on essaie de donner un maximum aux gens quand on peut.
500 dons de plaquettes sont nécessaires chaque jour en France pour transfuser les malades atteints de leucémie ou de lymphome. Octave essaye donc de motiver ses copains.
Bon, regardez, moi je sors d'examen il y a quelques heures. Vraiment, il n'y a rien de compliqué, quoi. C'est ça que ça m'étonne. Moi, j'ai des copains qui ont du mal à se bouger. Je dis, honnêtement, il n'y a pas de raison. Moi, j'arrive, on me propose à manger gratuitement, on me propose à boire gratuitement, on me fait gaffe à ce qu'on ne tombe pas dans les pommes après. Et ça prend une heure et demie dans une journée. Une heure et demie qu'on passe pas devant une série ou quelque chose, et encore je suis en train de regarder un film, donc ça prend pas vraiment énormément de temps, et c'est pas dur, et c'est pas une mini piqûre, parce que ça fait peur aussi, les piqûres. C'est vraiment rien et on le sent même pas, donc il n'y a pas de raison de pas le faire, en fait.
Et pourtant 4% seulement des Français donnent leur sang.
Et jusqu'au 13 juillet, l'établissement français du sang incite les volontaires à donner et à encourager leur entourage à donner à leur tour. Des heurts ont éclaté aujourd'hui à Hong Kong. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient à nouveau rassemblées aux abords du Conseil législatif, le Parlement local, pour protester contre un projet de loi sur les extraditions qui faciliterait le transfert de suspects en Chine afin qu'ils soient jugés. Devant la forte mobilisation, les débats parlementaires sur le texte controversé ont été ajournés, s'inédié. La tension reste vive ce soir à Hong Kong, Nathanaël Charbonnier.
La question est de savoir jusqu'où les autorités chinoises vont accepter d'aller. Hong Kong n'est pas tout à fait la Chine, mais n'est plus également cette enclave britannique qui, jusqu'en 1997, vivait avec les mêmes valeurs que l'Occident. Pour l'heure, c'est encore la liberté de manifester qui permet aux jeunes de se mobiliser. Sur cette ambiance envoyée par notre correspondante Florence de Changy, on sent en tout cas que la tension est palpable. Confirmation avec ce jeune homme qui trouve refuge sur une passerelle et qui explique « Je veux protéger cet endroit, cette ville va mourir à cause de cette loi. On doit faire quelque chose pour sauver cette ville, c'est tout. » Et quand on lui demande « Vous pensez que cela changera quelque chose ?» il répond « Peut-être pas, mais on fait de notre mieux. On a fait tout ce qu'on pouvait, au moins on pourra dire que nous avons été des citoyens responsables. » Hong Kong fragile, Hong Kong en danger sous les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc des policiers, et Hong Kong qui ne fera pas forcément le poids malgré ses richesses et son statut spécial face à un régime chinois déterminé, c'est en tout cas l'avis de la spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise, Marie Holzman.
C'est évident que Hong Kong joue encore un rôle économique très important pour la Chine. Mais d'un autre côté, le gouvernement chinois a cumulé des réserves en milliards de dollars. Il n'est plus à sa près maintenant. S'il considère que la révolution, on pourrait dire pratiquement la révolution hongkongaise, risque de faire tache d'huile en Chine, il ne va pas penser à la finance de Hong Kong, il va penser à sa propre survie.
En attendant, Hong Kong peut compter sur le soutien de l'Angleterre. Le ministre britannique des Affaires étrangères a appelé Hong Kong à écouter les inquiétudes de ses citoyens.
Au lendemain de la libération surprise du journaliste russe Ivan Golunov, les autorités montrent qu'elles ne sont pas devenues laxistes. La marche organisée dans le centre de Moscou contre les abus de la police aujourd'hui a été jugée illégale et rapidement dispersée. Au moins 400 manifestants ont été interpellés, Claude Bruyot.
Oui, bonsoir Aurélie. Il y avait environ un millier de personnes à ce rassemblement, non loin d'ailleurs du siège de FSB, l'ancien KGB, place de la Loubianka. Ivan Golunov n'était pas présent pour cette manifestation, qui n'était pas autorisée donc. Et parmi les manifestants, un grand nombre de sympathisants d'Alexeï Navalny, l'opposant principal à Vladimir Poutine. Donc Navalny présent également et qui devait être ensuite rapidement arrêté par la police, comme près de la moitié des personnes sur place d'ailleurs. Alors cette gestion policière n'a rien de vraiment surprenant pour un rassemblement qui n'était pas autorisé. Donc, l'an dernier, par exemple, plus d'un millier de jeunes avaient été arrêtés en même temps alors qu'ils dénonçaient la corruption du pouvoir. En réalité, Aurélie, le vrai test pour mesurer l'impact de l'affaire Golunov et savoir si réellement il existe un mouvement de fond en Russie prêt à s'imposer dans la durée contre l'arbitraire des pouvoirs locaux et fédéraux, ce sera dimanche prochain, puisque ce jour-là, le rassemblement sera autorisé et il donnera sans doute davantage d'indications que le rendez-vous de ce midi, donc privé encore une fois d'Ivan Golunov.
Merci beaucoup Claude Bruyot en direct de Moscou. Pour la première fois depuis la révolution de 1979, le chef du gouvernement japonais est en visite à Téhéran. Shinzo Abe a été sollicité par les autorités iraniennes qui cherchent à obtenir un allègement des sanctions imposées au secteur pétrolier. Le premier ministre japonais vient donc en mission de médiation dans l'espoir d'apaiser un peu les tensions entre Téhéran et Washington, Nadine Epstein.
Tokyo et Téhéran entretiennent de bonnes relations et Shinzo Abe a été reçu par le président Rouhani et il verra demain le guide suprême Khamenei. L'objectif de cette visite est d'ouvrir une voie de dialogue entre les États-Unis et l'Iran. Ni vraiment médiateur, ni messager, le premier ministre japonais apparaît davantage comme un émissaire du président américain qui, malgré ses menaces contre l'Iran, souhaite baisser la tension entre la République islamique et les USA. « J'espère faire de mon mieux pour la paix et la stabilité de la région », a déclaré Shinzo Abe, qui entend également consolider l'amitié irano-japonaise et jouer un rôle international de premier plan. Officiellement, Téhéran s'oppose à toute renégociation de l'accord sur le nucléaire, conclu en juillet 2015. Les Iraniens voudraient que les États-Unis reviennent dans cette entente qu'ils ont quittée en mai 2018. Mais dans un premier temps, ils pourraient s'accommoder d'un allègement des sanctions imposées au secteur pétrolier, comme par exemple la facilitation de la navigation de ces pétroliers dans le golfe arabo-persique. Juste avant la visite du chef du gouvernement nippon, gage de bonne volonté, l'Iran a libéré un Libanais qui vivait aux États-Unis et condamné à 10 ans de prison pour espionnage. La Maison-Blanche a réagi en se déclarant reconnaissante.
Je vous ai parlé lundi du massacre d'un village d'Ogon dans le centre du Mali. Le gouvernement avait annoncé un bilan provisoire de 95 morts et 19 disparus. Bilan revu aujourd'hui à la baisse à 35 morts, dont 24 enfants après vérification des enquêteurs. La région n'en est pas moins en proie à une recrudescence des violences. Aujourd'hui encore, deux villages d'Ogon ont été attaqués. Au Royaume-Uni, Boris Johnson va-t-il sauver les Tories? L'ancien maire de Londres et ancien ministre a donné le coup d'envoi de sa campagne officielle pour prendre la tête du parti conservateur et succéder ainsi à la première ministre Theresa May. Parmi les 10 candidats, ce fervent défenseur du Brexit avec ou sans accord est donné favori. Et lui, qui est souvent critiqué pour ses déclarations fracassantes, se montre fidèle à sa réputation. Aujourd'hui, il promet rien moins que de sauver le pays de la crise économique, que de la crise politique, dans laquelle il est plongé, avec des lendemains qui chantent, Antoine Gignot.
C'est la version anglaise de « Tout va très bien, Madame la Marquise » qui a décidé de chanter Boris Johnson. Malgré les derniers chiffres sur le ralentissement de l'économie, malgré le rapport du gouvernement qui montre que le Royaume-Uni n'est pas du tout prêt à quitter l'Union européenne, lui ne parle que d'opportunités.
Depuis qu'on a quitté l'Union européenne et contre toute attente, la croissance économique a été plus rapide que dans le reste de l'Europe. Le taux de chômage est tombé à son niveau historique, le plus bas depuis 1972. Les exportations se sont envolées et les équipes de foot anglaises ont gagné la Champions League et la Ligue Europa en battant d'autres équipes anglaises.
L'ancien maire de Londres promet aussi d'aller jusqu'au bout dans le bras de fer avec Bruxelles, quitte à sortir de l'Union européenne sans aucun accord. Pas question non plus de renier ses dérapages, les phrases qui comparaient les femmes voilées à des boîtes aux lettres ou les gaffes diplomatiques. Boris Johnson assume.
Je voudrais faire une remarque générale sur la manière dont j'agis et le langage que j'utilise. Je pense qu'il est absolument vital que nous, les politiciens, nous nous souvenions que l'une des raisons pour lesquelles le public se sent éloigné de nous, c'est parce que trop souvent nous adoucissons, nous édulcorons nos propos.
Quant aux députés qui ne veulent pas d'un Brexit dur et qui risquent de se mettre sur sa route, Boris Johnson ne veut même pas y penser. C'est, dit-il, la volonté du peuple qui l'emportera.
Antoine Gignot à Londres. Demain jeudi, le temps sera sec et ensoleillé sur l'Occitanie, le Sud-Est et la Corse et également près des frontières allemandes. Sur le reste du pays, les averses alterneront avec les éclaircies. Météo France prévoit des orages l'après-midi entre l'Aquitaine et les Ardennes. Le matin, les températures iront de 6 à 17 degrés. L'après-midi, 6 à 20 sur le Nord-Ouest, 21 à 26 ailleurs, jusqu'à 29 en Provence et en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.